Au quotidien, avec Denis Martin Chabot.
Une réponse. Ah, il sait pas.
Oui, bonjour, c'est le quatrième jour de la semaine.
Oui, le quatrième jour de la semaine. Puis pour nous, c'est un jeudredi parce qu'il n'y a pas d'émission demain. Donc, on a un long week-end, comme tous les week-ends d'ailleurs pour nous. Alors, oui, aujourd'hui, ce jeudi 13 août, au sommaire de l'émission, aujourd'hui, on va parler de... une petite seconde, là, je cherche mes textes. Voilà. Nous allons parler des correspondances d'Eastman. La programmation a été dévoilée hier. Et alors, on va faire le tour de ça avec Elisabeth Warling, qui est directrice générale et artistique. Et puis, un peu plus tôt cet été, j'ai été invité à plusieurs événements dans le cadre des Franco. Et j'ai rencontré Piche. Piche, c'est une drag queen française. Vous allez voir, elle est assez différente. C'est une drag queen à barbe, mais surtout est fière de ses origines gitanes. Alors, cette entrevue, donc, un peu plus tard à l'émission. Donc, à la météo aujourd'hui, généralement nuageux, 60 % de probabilité d'averse, risque d'un orage dans l'après-midi. Donc, c'est pour l'Ontario, le Québec, les provinces atlantiques. On a des maximum à 22, donc humidex 25. Alors, c'est le retour un peu des humidex là, pour les prochains jours. Ça, c'est au Québec. En Ontario, on a l'humidex à 31. Dans l'ouest, alternance de soleil et de nuages, 30 % de probabilité d'averse en après-midi. Des nappes de brouillard qui se dissipent le matin. On a un maximum donc de 24 au Manitoba avec un humidex de 27. La pluie en Saskatchewan, 19. L'Alberta, de la pluie aussi, 16 degrés. Et la Colombie-Britannique, c'est généralement ensoleillé, 23 à 25. À cette date, ce 13 août, en 1899, c'était la naissance d'Alfred Hitchcock, réalisateur britannique surnommé maître du suspense. Il est célèbre pour des films tels que Psychose, Sueur froide et Les oiseaux. Moi, c'est la scène du motel. Le couteau. Et pourtant, c'est pas graphique, mais mon Dieu, qu'on se sent mal. T'aimes Hitchcock, toi, Maurice?
Oui.
Ah oui, c'est vraiment quel maître de suspense et même de l'image. Je pense que de nos jours, on met tellement de choses dans l'image. Ouais, c'était très simple, oui. Et 1910, c'était le décès de Florence Nightingale, infirmière britannique, pionnière des soins d'infirmiers modernes et fondatrice de la première école de soins infirmiers au monde. 1946, c'était le décès de H.G. Wells, écrivain britannique, l'un des pères de la science-fiction avec La guerre des mondes. Il y a eu, ça c'est quelque chose qu'on a étudié quand j'étais à l'école de journalisme à l'Université Carleton. La guerre des mondes, ça a été joué à la radio et les gens qui prenaient l'écoute de ce fameux radio-roman à l'époque, qui n'avaient pas été là depuis le début, donc qui n'ont pas eu l'avertissement que c'était de la fiction, et ça a créé... Ça crée des peurs, des émeutes là où ça a été diffusé. Intéressant, hein? Est-ce que tu es gaucher, Maurice?
Non.
Non? C'est la journée internationale des gauchers aujourd'hui.
On les salue.
On les salue avec la main droite et la main gauche. Alors, c'est une journée pour sensibiliser aux défis et aux particularités des gauchers dans un monde principalement droitier. J'avais un caméraman à Radio-Canada, il était gaucher. Bien, tu sais que la caméra était faite pour être à droite.
Ah oui, c'est...
Oui, je pense que maintenant, ils peuvent les changer, mais à l'époque, c'était à droite.
Oui, il y a des magasins pour gauchers. Oui. Je sais que dans les Simpsons, Ned Flanders a un magasin pour les gauchers.
Ah, oui. Ben, c'est ça. C'est la fête nationale de la République centrafricaine aujourd'hui. C'est donc la célébrant donc l'indépendance de ce pays obtenue en 1960. Et puis, il faut que je parle de ça. 13 août 1997, la série South Park fait ses débuts à la télévision états-unienne, devenant rapidement un phénomène culturel grâce à son humour irrévérencieux et les critiques sociales mordantes. Oh my God, they killed Kenny. Là, je ne ferai pas avec la finale de cette phrase-là. Ben, nous, on va aller en musique.
Je t'ai vu faire lever le jour en chantant des chansons d'amour. Je t'ai vu
monter vers le ciel car tu as dans la tête bien mieux que des ailes.
Et je dis sans même trembler que j'arrive à te ressembler.
Je suis toi et toi tu es moi. Et nous sommes le monde, nous sommes. bientôt
ce qu'il y a de plus beau
dans le monde.
Parce que tu m'as dit, c'est quand rien n'est prévu, tout devient possible.
On s'accorde comme une mélodie, avec toi tout devient permis. L'horizon se perd dans l'infini, fie-toi sur moi et je dis
que je te suivrai, car c'est toi qui m'as délivré de ma vie, qui n'allait nulle part.
Et ma vie, l'autre vie, je la sens comme une ombre. Je la sens, je la suis dans le monde.
C'est pas fini, version Star Academy.
Eh bien, on y va maintenant avec les unes aujourd'hui dans la presse plus. À l'hôpital du Granit de Lac-Mégantic, le service d'obstétrique est fermé depuis le mois d'octobre en raison d'une pénurie d'infirmières. Cette interruption de service force les futures mères de la région à faire plus d'une heure de route pour se rendre dans les centres hospitaliers comme Sherbrooke ou Saint-Georges. Les données locales font état de près de 120 accouchements par année à cet endroit, auxquels s'ajoutent plus de 400 consultations d'urgence en maternité. Face à cette situation, une mobilisation citoyenne s'est organisée à l'initiative de professionnels de la santé et de membres de la communauté. Selon la chef du service d'obstétrique, la docteure Laurence Kennel, le manque de 6 infirmières demeure un obstacle majeur au rétablissement complet des activités. Parmi les pistes d'action explorées figure la collaboration entre sages-femmes, médecins et infirmières, ainsi que la contribution d'infirmières auxiliaires. Ce dossier s'inscrit également dans un cadre politique plus large à l'approche de la campagne électorale. Un mouvement provincial baptisé « Nos régions, nos soins » a d'ailleurs été créé pour dresser un bilan partagé des ruptures de services en région. Un comité de citoyens a été formé... la nouvelle se continuait, je suis désolé. Alors, il y a un comité de citoyens qui a été formé là, dans la région de Mégantic avec une pétition de 3000 signatures. Là, ça a été déposé et puis il y a des manifestations qui ont eu lieu là, pour réclamer le retour des naissances. Il y a même le groupe musical local Couleur Plywood qui a composé une chanson d'appui intitulée « Sauver l'obstétrique de Mégantic ». Alors, pour sa part, la chirurgienne générale Laurence Gauvin-Meunier mentionne qu'une étude démontre qu'une hausse de 18 % des risques de morbidité et de mortalité lors de longs trajets prolongés en zone rurale. Santé Québec estime que pour l'hôpital donc, du Granit, la réouverture du service d'obstétrique se ferait le 4 octobre. Dans la presse plus, à Iwujivik, un village inuit du Nunavut, un enfant de 4 ans, Jussi Padlayat, est décédé après que la famille a tenté à plusieurs reprises d'obtenir des soins médicaux au dispensaire local. Selon les proches de la victime, le garçon souffrait de maux de ventre invalidants depuis le 25 juillet. La famille affirme s'être présentée au dispensaire entre 5 et 10 fois sans qu'une prise en charge approfondie ne soit effectuée. le personnel recommandant plutôt de l'analgésique. Retrouvé inconscient le 1er août, l'enfant a été évacué vers l'hôpital de Montréal pour enfants, où son décès a été constaté le 3 août. Le bureau du coroner a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de ce décès. Parallèlement, un examen interne multidisciplinaire a été déclenché par le Centre de santé Inuit Civique et la Régie régionale de santé et les services sociaux du Nunavik, en plus d'une évaluation menée par un expert indépendant. La communauté locale a manifesté sa réaction sur les réseaux sociaux, tandis que la députée fédérale de la circonscription, Mandy Goulmasty, a réclamé un suivi rigoureux de l'affaire de la part des autorités québécoises. Et puis une analyse dans Le Devoir des données effectuées par justement Le Devoir du ministère de la Santé révèle que l'offre de rendez-vous en clinique demeure concentrée durant la semaine et en journée. Entre janvier 2024 et août 2026, 62 % des consultations des médecins de famille ont été proposées les mardis, mercredis et jeudis. Au total, 94 % des plages horaires sont offertes du lundi au vendredi et environ 81 % avant 15 heures. Les samedis et les dimanches représentent 6 % de l'ensemble des créneaux proposés. Ces proportions sont demeurées stables malgré la conclusion en décembre dernier d'une entente de principe entre le gouvernement et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Cet accord prévoit notamment d'évaluer une hausse des services en heures défavorables, comme les soirs et les fins de semaine, et rattache à cet objectif un montant récurrent de 75 millions de dollars à compter d'avril 2027. En réaction, le cabinet de la ministre de la Santé a réitéré son intention d'améliorer l'accès aux rendez-vous, tandis que le regroupement provincial des comités des usagers a déploré l'absence de changements mesurables pour les patients. Pour sa part, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec a rappelé que la pratique de ses membres inclut des gardes en milieu hospitalier et à l'urgence et en centre d'hébergement les soirs et les fins de semaine.
Les étoiles étaient dans le ciel, toi dans les bras de Gabriel. Il faisait beau, c'était dimanche. Les cloches allaient bientôt sonner et tu allais te marier dans ta première robe blanche. L'automne était bien commencé, les troupeaux étaient tous rentrés et partis toutes les sarcelles. Le soir au son des violons, les filles et surtout les garçons t'auraient dit que tu étais belle. Evangelina, Evangeline. Mais les Anglais sont arrivés dans l'église, ils ont enfermé tous les hommes de ton village. Et les femmes ont dû passer avec les enfants qui pleuraient toute la nuit sur le rivage. Au matin, ils ont embarqué Gabriel sur un grand voilier, sans un adieu, sans un sourire. Et toute seule sur le quai, tu as essayé de prier, mais tu n'avais plus rien à dire. Évangile. Alors pendant plus de 20 ans, tu as recherché ton amant à travers toute l'Amérique. Dans les plaines et les vallons, chaque vent murmurait son nom comme la plus jolie musique. Même si ton cœur était mort, ton amour grandissait plus fort dans le souvenir et l'absence. Il était tout, toutes tes pensées, et chaque jour il fleurissait dans le grand jardin du silence. Évangélina, Évangélina. Tu vécus dans le seul désir de soulager et de guérir ceux qui souffraient plus que toi-même. Tu as appris qu'au bout des chagrins, on trouve toujours un chemin qui mène à celui qui nous aime. Ainsi un dimanche matin, tu entendais dans le lointain les carillons de ton village. les épreuves étaient finies, ainsi que le très long voyage. Évangélina, Évangélina. Devant toi était étendu sur un grabat un inconnu, un vieillard mourant de faiblesse. Dans la lumière du matin, son visage sembla soudain prendre les traits de sa jeunesse. Gabriel mourut dans tes bras, sur sa bouche tu déposas un baiser long comme ta vie. Il faut avoir beaucoup aimé pour pouvoir encore retrouver la force de dire merci. Évangélie. Se souviennent, car l'océan parle de toi, les vents du sud portent ta voix, de la forêt jusqu'à la plaine. Ton nom c'est plus que l'Acadie, plus que l'espoir d'une patrie, ton nom dépasse les frontières. Ton nom c'est le nom de tous ceux qui, malgré qu'ils soient malheureux, croient en l'amour. Qui espère, Evangelina. Evangelina. Evangelina.
Évangéline par Marie-Jo Thériault.
Une très belle version de cette chanson. Je pense que c'était Isabelle Pierre qui avait fait la première version. C'est une chanson qui a été écrite par Michel Comte.
Oui, en 1971.
Oui, c'est vraiment une mémoire incroyable de la chanson.
J'ai un ordinateur à côté de moi qui m'aide.
Ah bon, ouais. Ben non, c'est pas triché, là, parce que faire la recherche rapidement comme ça. La raison pourquoi j'ai fait jouer cette chanson, vous allez entendre quelques autres chansons acadiennes aujourd'hui. Bien, aujourd'hui, c'est le 13 août, mais en fait, le 15 août, donc samedi, c'est la journée nationale de l'Acadie. Puis, c'est quand même une grande partie de la population qui nous écoute. Vous savez que même au Québec, il y a un million, on estime à un million de personnes qui vivent ici, qui peuvent tracer leurs racines en Acadie. Et l'Acadie, c'est un pays virtuel, ce n'est même pas une province, c'est virtuel, mais le sentiment d'appartenance est très fort. Moi, personnellement, ça me touche beaucoup parce que ceux qui connaissent un peu ma carrière savent que j'ai passé plusieurs années dans les provinces atlantiques comme correspondant à Radio-Canada. Et quelque part, j'ai l'impression que ce pays-là m'a adopté. Et puis, je sens toujours le besoin à l'approche ou lors de la journée mondiale, la journée nationale de l'Acadie, de le souligner. Alors, bonne fête d'avance à nos auditeurs, auditrices, auditorices de l'Acadie. Puis, on vous aime, puis on aime beaucoup la culture acadienne. Elle est formidable, puis on est content que ça existe. Je vais continuer avec quelques nouvelles et on va retourner en musique après. Dans Le Devoir aujourd'hui, le chef du service de police de la ville de Montréal, Fadi Daguerre, qualifie de trahison de l'uniforme les gestes de racisme allégués au poste de quartier 39 situé à Montréal-Nord. Révélées en juin dernier, ces allégations incluent notamment le précompte de mèches de cheveux sur des personnes interpellées. Ces propos font suite à une séance de la Commission de la sécurité publique, au cours de laquelle le chef de police a répondu aux questions de la population pendant 3 heures. Pour répondre à cette situation, la direction du SPVM a procédé au démantèlement de l'unité visée et à la suspension de 3 policiers et à la réfectation de 13 autres. Fadi Daguerre a indiqué que ces dénonciations provenaient d'agents du poste concerné. Il annonce également la présentation en novembre prochain de nouvelles mesures élaborées en concertation avec des organismes communautaires et assorties d'un suivi citoyen. Le dossier fait présentement l'objet de 3 procédures distinctes, soit une enquête criminelle, une démarche en déontologie policière et un examen disciplinaire interne. Alors maintenant, les paractualités. Le journal ou le site Le Soir du 12 août, le parcours Parkinson-Bas-Saint-Laurent tiendra sa 11e édition le 11 septembre prochain au parc Beau Séjour de Rimouski. L'organisation s'est fixée un objectif de collecte de fonds de 25 000 $ pour financer les services de proximité, l'accompagnement des personnes atteintes et de leurs proches, ainsi que les recherches sur la maladie. L'événement se déroulera sous la présidence d'honneur de Miguel Perrault, président du groupe DTM. Le rassemblement est prévu dès 13 heures, suivi de la marche symbolique à 14 heures. Les citoyens et les entreprises locales sont invités à participer sur place ou à contribuer par des dons en ligne. Ma Gaspésie 12 août, la 5e édition de la randonnée de moto des Demoiselles de l'Est s'est tenue le 8 août dernier et a permis de recueillir la somme de 52 136 $. L'événement a réuni une trentaine de motocyclistes avant de se conclure par une soirée de rassemblement à Barachois avec 90 participants et participantes, incluant des femmes soutenues par l'organisme. Ces fonds serviront à appuyer la mission des Demoiselles de l'Est auprès des femmes atteintes d'un cancer du sein ou d'un cancer féminin dans les MRC de la Matanie, de la Métis et de la Vallée de la Matépédia. 12 août, dans le soleil, la ministre fédérale de la Santé, Marjorie Michel, a annoncé l'octroi de 24 millions de $ pour créer le consortium canadien sur le cannabis et la santé cérébrale. Financé par les Instituts de recherche en santé du Canada, cette initiative rassemble 10 équipes de chercheurs universitaires canadiennes, d'universités canadiennes, pour analyser les impacts du cannabis sur le cerveau à différents âges. Les travaux viseront à établir des preuves scientifiques sur les risques et les bienfaits potentiels de la consommation. L'étude se penchera notamment sur l'anxiété, le sommeil, l'épilepsie et le syndrome du stress post-traumatique, ainsi que le développement cérébral chez les jeunes et durant la grossesse. Les chercheurs prévoient recruter plus de 3000 participants afin de recueillir des données sur la santé mentale et le fonctionnement cérébral tout au long de la vie. Le gouvernement fédéral avait légalisé le cannabis en 2018. Dans l'AFP, l'Agence France-Presse, 12 août, l'Organisation mondiale de la santé exprime de vives inquiétudes quant aux nouvelles directives vaccinales décrétées par le président états-unien Donald Trump. Alors, sans aucune preuve scientifique à l'appui, Trump a signé un décret lundi qui préconise notamment d'espacer l'administration des vaccins pour enfants et de dissocier les injections contre la rougeole, la rubéole et les oreillons. Trump continue d'évoquer un lien possible avec l'autisme, une théorie totalement démentie par la recherche. Alors, l'OMS rappelle que de retarder ou étaler les doses n'accroît en rien la sécurité des enfants et risque plutôt de les priver d'une protection essentielle. Rappelons aussi la vaste refonte menée par le ministre états-unien de la Santé, Robert F. Kennedy Jr., qui a notamment réduit les crédits alloués pour la recherche vaccinale. L'OMS insiste sur le fait que les politiques de santé publique doivent impérativement reposer sur des preuves rigoureuses et transparentes, hors de toute politique.
Ce soir, on n'a pas besoin de faire semblant. Je me fous des gens autour, t'es tout ce que je vois. On sait depuis longtemps ce qui se passe en dedans. On sait depuis longtemps ce qu'on veut vraiment. Dis-moi pourquoi c'est compliqué, j'ai toujours pris à m'expliquer. Je pense que je me suis égarée beaucoup trop loin. J'en ai trop, j'en ai assez, besoin d'air pour respirer. Je veux finir par m'oublier, beaucoup trop loin. Tout le monde me dit de me taire. Comment chanter, comment pleurer, comment crier. Mais avec toi, je me sens. Ce soir, on n'a pas besoin de faire semblant. Je me fous des gens autour, t'es tout ce que je vois. On sait depuis longtemps ce qui se passe en dedans. On sait depuis longtemps ce qu'on veut vraiment. Quand je suis avec toi, tout prend son sens. C'est beaucoup plus qu'une histoire dans la chambre. On sait depuis longtemps ce qui se passe en dedans. On sait depuis longtemps ce qu'on veut vraiment.
Je veux pas nier le fait que j'ai déjà aimé. Par le passé, mes pensées ont changé de toi. Je n'aurais pas cru un jour pouvoir te dire à mon tour que nous deux, c'est un jeu, que je ne veux pas dire adieu. Et nombreux te diront que t'as perdu la raison. À quoi ça sert de rester avec lui si c'est pas le bon? On pourrait partir maintenant. On sait que c'est à notre tour à présent.
Ce soir, on n'a pas besoin de faire semblant. Je me fous des gens autour de tout ce que je vois. On sait depuis longtemps ce qui se passe en dedans. On sait depuis longtemps ce qu'on veut vraiment. Quand je suis avec toi, tout prend son sens. C'est beaucoup plus qu'une histoire dans la chambre. On sait depuis longtemps ce qui se passe en dedans. On sait depuis longtemps ce qu'on veut vraiment. On sait depuis longtemps ce qui se passe en dedans. On sait depuis longtemps ce qu'on veut vraiment. Quand je suis avec toi, tout prend son sens. C'est beaucoup plus qu'une histoire dans la chambre. On sait depuis longtemps ce qui se passe en dedans. On sait depuis longtemps ce qu'on veut vraiment. On sait depuis longtemps ce qu'on veut.
Qu'on veut vraiment par Ariane Simard et Gabriel.
Rappel météo maintenant pour à peu près tout l'est du pays. Donc, ça inclut le Québec, l'Ontario et les provinces atlantiques. C'est généralement nuageux avec probabilité d'averse, risque d'orage dans certaines régions en après-midi. On a dans l'est des humidex à 25 et en Ontario, ça va aller jusqu'à 31. Ça va être encore humide, hein, peut-être pour tout le week-end. Si ma mémoire est bonne, je regardais les prévisions là, pour le week-end. Dans l'ouest du pays, alternance de soleil et de nuages au Manitoba avec des humidex là-bas de 27, Saskatchewan de la pluie 19. L'Alberta de la pluie 16 et Colombie-Britannique, généralement ensoleillé 23 à 25. On va parler après la pause des correspondances d'Eastman avec la directrice générale de ce festival littéraire très, très, très intéressant, très couru. Alors, on parle de tout ça donc après la pause.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
N'entends-tu pas crier à l'aide? Il devient pire, plus le temps file, ça empire. Seulement la mort dans la vie pour en garantir. La vérité pèse toujours plus que mensonge. Rappeur de la rue, je raconte jamais aucun mensonge. Des cris de guerre à des kilomètres. Sauve-le de la rue, n'entends-tu pas crier à l'aide? J'ai mon visage derrière les autobus, si pas je les sollicite. J'ai des projectiles stack pour ta figue et pour un homicide. Chez qui capte tous dans leur audio et leur vidéo. La rue remplit clown effectuant leur meilleur numéro. La vérité nous blesse, l'amour c'est peut-être un blessing. La vie de la rue nous blesse, quand tu débloques c'est un blessing. Ça fait mal qu'on te laisse, au nom du gain j'honore ton service. Masque comme au Covid, on se verra dans une autre vie. J'ai beaucoup trop de work pour un fresh out. Nigga, coûte 45, j'vais les saouler avec plein de chasse. Nigga, envoie des chasses par tes réseaux, tu prends plein de chasse. Nigga, meurtre à Montréal, c'est pas de la fiction, reste calme. Nigga, j'ai survécu tous les traumas comme un rescapé. Amène-moi la paix que j'mérite des sommets. J'dois digérer l'abandon, mon cœur excavé. J'aurais senti aucune douleur si j't'ai préparé. T'es dans le street, faut find a way. On vit la vie de Hardaway. Sur le terrain comme Hardaway. L'argent appelle, j'suis on the way. Y'a t'un gang que j'suis on the way. On a fait pleurer l'opposé. J'me soucie jamais de l'opposé. Car dans ma vie, j'ai trop osé. Quand j'serais mort, j'pourrais me reposer. Enfin, j'peux même pas me rappeler tous les lois, j'ai un frein.
Dommage que j'ai pas pu la garder enceinte. Dans les rues de mon aile, j'ai gardé mon empreinte. Des cris de guerre à des kilomètres. Sauf le la rue, l'entends-tu pas crier à l'aide? Il devient pire, plus le temps file s'empire. Seulement la mort dans la vie pourra garantir. La vérité pèse toujours plus que mensonge. Rappeur de la rue, je raconte jamais aucun mensonge. Des cris de guerre à des kilomètres. Sauf le de la rue, l'entends-tu pas crier à l'aide?
Pour tout, je te parle pas. L'aval de rapide, on vient péter des records. Si je tombe, je bounce back. J'ai pas besoin de ta sephore. Personne pour m'épauler. Y'a que ma mère et ses prières. On vient du dirt, dirty cop pour entamer la misère. Mon goal est m'instant, c'est pas la COVID. Depuis que j'ai refait le temps, on m'a vu car je souris. Pour tu dois find a way. Chercher pour les final things. Work pendant les holidays. Tu sais, je dois prier. Je te parle pas de VVS. Je dois compter des billets. Aujourd'hui, c'est mieux qu'hier. LDR boy, toujours sur alerte. Speed durus, c'est aucun mensonge. Notre histoire est réelle. J'ai mal à dormir. Je veux pas te mentir la nuit. Je veux plus de rêve. Mais je suis reconnaissant. Je sais bien que je suis blessed. Ferais tout pour du Prada ou un Birkin. Je pense pas que c'est moi qui va la sauver. Aucun mensonge sur le micro, c'est du real shit. Yeah. Malheureusement, on aime le danger. Malheureusement, on aime le danger.
Aucun mensonge par les rappeurs Rash et TJ DTS.
Mais du 10 au 13 septembre prochain, le village d'Eastman vibrera au rythme de sa 24e édition des correspondances d'Eastman. C'est placé cette année sous le thème des amitiés. Et pour parler de tout ça, on reçoit Elisabeth Walling, qui est la directrice générale et artistique des correspondances d'Eastman. Bonjour, Elisabeth.
Bonjour, merci pour cette belle invitation.
Ben oui, puis on a du temps aujourd'hui, fait que j'ai plusieurs questions qui sont peut-être plus fondamentales, mais à chaque fois que je parle de ce festival, il y a encore des gens qui me disent c'est quoi? C'est quoi les correspondances d'Eastman?
C'est une excellente question. On a fait inscrire sur notre affiche cette année Festival littéraire.
Tout à fait.
Au départ, c'est Louise Portal qui était à Manosque en France et qui a vu ce festival littéraire où les gens écrivaient des lettres. C'est comme ça que c'est parti un peu. Et ça fait 24 ans, comme vous l'avez mentionné. Donc, au cours des années, ça a évolué vraiment avec des échanges avec les auteurs, mais de base, c'était concentré sur l'écriture. Et cette année, on fait un retour vers ça. Donc, on va faire écrire les gens. Par exemple, je vous donne un exemple, dans le parc du temps qui passe, on aura Stanley Péan, l'homme de radio, l'écrivain qui a écrit des romans jeunesse, des romans adultes, qui va commencer un petit texte sur l'amitié, puisque l'amitié, c'est le thème cette année. Et les gens seront invités à compléter le texte. Ça s'appelle La paire littéraire. C'est ouais. Joanne Filion qui anime cette activité-là. Et il y aura un gagnant qui gagnera un passeport pour toutes les activités de la 25e édition, donc l'année d'après.
Mais c'est intéressant.
C'est ouais. un festival, mais il y aura toutes sortes d'activités, musique, poésie, exposition, plus écriture.
À chaque fois, je ne suis pas allé souvent, mais à chaque fois que je suis allé, je reviens de là enchanté. Je pense que c'est ça, c'est les mots, c'est dans toute sa simplicité, puis je pense que c'est ça qui fait du bien. Puis dans le monde dans lequel on vit présentement, c'est peut-être pas une mauvaise chose.
Mais je suis contente que vous en parliez parce que le thème de l'amitié, au départ, je me disais, oh, est-ce qu'on va être capable de faire tout un festival autour de ça? La réponse, c'est oui, non seulement ça, on a plus de 34 activités.
Ah, mais quand
donc,
même, hein?
Ouais. Je pense que l'amitié, c'est quelque chose où on peut être d'accord de ne pas être d'accord. On a des amis avec qui on discute et on reste amis quand même. Et je pense que dans notre société, en ce moment, on est souvent polarisé. Et la discussion, c'est quelque chose qui fait du bien. Et je dirais que pourquoi vous revenez aussi enchantée, je suis vraiment très contente de le savoir, mais c'est qu'à Eastman, Il y a cet accueil-là de nos commerçants, de nos résidents. Les gens participent, tout le monde embarque. Il y aura beaucoup d'activités gratuites au cœur du village, concentrées au marché d'Isman, qui est ouvert de 10h à 13h, le marché public, juste au cœur du village, là où il y a l'église. Et tout va être gratuit. Les gens vont pouvoir rencontrer Michel Deslauriers, la grande Michel Deslauriers, qui va venir faire une lecture sur l'amitié. Il y aura Stéphane Lemardelé, qui est un résident de l'Estrie, qui a fait un roman graphique sur Jeanne Benoît, qui était aussi une résidente de l'Estrie. Donc, ça va être vraiment intéressant.
Je faisais cette remarque sur l'amitié quand je préparais cette entrevue, puis je parlais avec des gens qui sont chez moi, qui me visitent de la France, et je disais que c'est intéressant de parler de l'amitié parce que de nos jours, les gens confondent toutes les sortes d'amitiés, parce que je fais référence aux amitiés Facebook ou des réseaux sociaux où c'est factice. On n'est pas du tout dans ça, là.
Je suis vraiment, vraiment impressionnée parce que ce que vous dites, on a fait un samedi une table ronde qui sera justement avec de grands auteurs, Martin Desrosiers, Mauricio Segura, Isabelle Arsenault, qui écrit aussi des choses jeunesse, David Hommel, qui a écrit sur l'amitié masculine, animé par le grand Mathieu Bellil, qui a écrit Une brève histoire de l'espoir. Il a écrit ce livre-là pour sa fille. Et effectivement, les réseaux sociaux, on confond les amis, les likes, avec la vraie amitié. Par contre, moi, j'avoue que j'ai retrouvé de grandes amitiés grâce aux réseaux sociaux.
Ben oui.
Et nous sommes sur les réseaux sociaux, alors j'invite tout le monde, c'est là qu'on diffuse notre information souvent, allez liker notre page, devenez les amis des correspondances, abonnez-vous à notre infolettre pour avoir toutes les informations du festival.
J'allais faire une blague, j'étais pour dire que toutes les amitiés ne sont pas toujours fréquentables sur les réseaux sociaux, la vôtre certainement, là, fait qu'elle l'est fréquentable. Mais c'est intéressant parce que effectivement les bons et les mauvais côtés des réseaux sociaux, mais apparemment, j'ai retrouvé des gens que j'avais perdu de vue, mais en même temps, il y a des gens qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, mais c'est tellement toxique. Et je pense que ça fait du bien de se repencher. C'est quoi l'amitié, finalement? Et dans un sens littéraire, ça doit vraiment nous aider. Je vais aller dans mes vraies questions parce que j'avais prévu plein de questions, puis là, on est parti sur autre chose. Donc, le festival va s'ouvrir jeudi avec le parcours Les amitiés qui marchent. Si je ne me trompe pas, c'est Michel Plummer qui va être là et la cérémonie d'ouverture qui est vendredi. On s'attend de quoi de ces premières activités-là?
Oui. La première activité, on va appeler ça de la culture physique. C'est-à-dire qu'on a 34 activités. Il faut quand même être en forme là, pour être capable de suivre tout le festival. Alors, Michel Plummer, la grande Michel Plummer qui résidait à Isman, a un panneau littéraire autour du beau lac d'Argent. On va faire une petite marche. Je serai là pour pouvoir répondre aux questions justement des festivaliers sur toute la programmation. On sera en nature et Michel expliquera comment ce panneau littéraire d'un poème qu'elle a écrit a influencé le reste de sa carrière. Donc, ça va être intéressant. L'ouverture, c'est gratuit. Tout le monde peut être là. On aura des personnalités, dont Alain de la Fontaine, qui est président de notre conseil d'administration, qui a écrit un livre aussi, qui sera là pour l'ouverture, qui va nous en parler. On aura Hassan Laramé, qui est le fils de notre ancien maire, qui a écrit un premier livre grâce à Francine Ruel. Francine Ruel sera là pour nous dévoiler en primeur son spectacle qui sera présenté ultérieurement à Magog. Donc, deux activités vraiment à ne pas manquer. Je rajouterais quelque chose de bien particulier. Manuel Tadros, le grand Manuel Tadros, musicien, compositeur, qui accompagnera Émilie Ndjourou. Et ça sera samedi, un petit moment de poésie. Et pour venir entendre une poétesse de la relève, le fils de Manuel, Xavier Dolan, a écrit la préface du livre de Émilie. Ça, c'est une belle activité à ne pas manquer, une découverte pour moi.
On a mentionné ça un petit peu, mais on va peut-être retourner faire en plus en détail. Il y a les cafés littéraires. Il y a la projection anniversaire de Bonheur d'occasion. On a parlé aussi du club d'échange de livres. C'est vraiment beaucoup d'activités et qui me semblent tellement basiques. Ça fait long... Il me semble qu'on devrait faire ça tout le temps.
Ben, j'aimerais ça s'il y a quelqu'un qui veut m'engager.
Non, mais sérieusement, moi, je vais dans des villages, dans des coins de la ville de Montréal. Je promène mon chien et là, il y a des petits cabanons là, qui sont sur des terrains et les gens mettent des livres, d'autres en prennent. Puis je trouve que, il me semble que c'est une belle activité.
Je pense que ça va être extraordinaire et en plus, ça va être animé par Tristan Malavoie, mm-hmm. qui tout de suite après va faire le lancement de son livre « L'espace entre nous », discussion avec Véronique Marcotte. Donc, des gens qui aiment parler de livres et moi, je suis une grande lectrice, donc j'ai des caisses de livres et j'hésite souvent à, je me dis, oh, j'aimerais ça pouvoir les suggérer, dire quelques mots sur ce livre, pourquoi j'ai adoré ce livre et j'invite les gens à faire pareil. Plusieurs gens me demandent, mais qu'est-ce que je fais avec les livres? Oui, il y a les boîtes de livres, mais c'est le fun aussi de savoir que un livre, c'est un ami. Je pense que c'est Proust qui disait ça. Oui. Et on aime pouvoir référer nos amis, dire oui, je sais qu'il va être en bonne main, tu vas passer un bon moment. On ouvrira aussi une page événement Facebook pour revenir sur les réseaux sociaux.
Oui.
Si jamais il y a plus d'une personne qui seront intéressées à ce livre et à l'échange de livres, qui sait, ça deviendra peut-être quelque chose, comme vous le suggérez, qu'on pourra continuer.
Vous savez que je gère un festival, mon autre chapeau, j'ai un festival littéraire qui a lieu pendant Fierté Montréal et je lis bon an, mal an et je reçois beaucoup de services de presse. Je lis bon an, mal an entre 80 et 100 livres par année. Je n'ai plus de place chez moi et je trouve que cet échange-là, c'est le fun. Moi, je vais souvent les porter aussi dans des résidences pour personnes âgées. Je me dis, ben, tu sais, ils n'ont pas toujours l'occasion de trouver des livres plus récents, alors je les laisse là. Mais je trouve que c'est vraiment une belle idée. On n'a pas beaucoup mentionné la projection anniversaire de Bonheur d'occasion. C'est intéressant de faire ça.
Ah, je vous avoue que j'ai fait partie de la très petite équipe d'éléphants mémoire du cinéma québécois. Et ça, c'est un projet de Pierre-Carl Pelado qui paye pour restaurer toute notre cinématographie. Alors, vraiment une belle initiative et qui encourage beaucoup notre festival depuis le tout début. Alors, Bonheur d'occasion, Gabrielle Roy, une grande autrice qui a fêté les 80 ans de son roman Bonheur d'occasion, qui a été restauré, le film, et l'adaptatrice, la scénariste et productrice Marie-Josée Raymond sera là pour nous en parler. Monique Proulx, la grande Monique Proulx, qui a écrit un livre inspiré justement de Gabrielle Roy, sera là aussi. Ça sera animé par Étienne Beaulieu, qui a tenu le fort très longtemps pour les correspondances des semaines, un auteur, éditeur bien connu. Et ça sera projeté le dimanche en clôture. On aura des petites surprises. Il y aura Pierre Chagnon qui jouait le rôle principal, l'acteur qui sera là aussi, qui est aussi un auteur. Donc, un moment à ne pas manquer, qui réunit le scénario, donc le livre, le roman, et comment on fait pour adapter un roman historique à l'écran. Marie Robert, qui a aussi un festival du roman historique à Magog, sera là et on va passer le flambeau à Marie qui va continuer le festival. On aura une petite présence là à son festival. Je pense que c'est important de s'entraider entre festivals. On sera très heureux de participer à votre festival aussi si vous nous invitez.
J'ai remarqué dans votre programmation, il y a la présence des voix émergentes et aussi des voix autochtones. Parlez-nous de l'importance de ça.
Ah, j'avoue que c'est un autre coup de cœur. Moi, j'ai habité à Pouvelmoutouk. Alors, c'est mon enfance. Michel Jean a fait un très, très beau livre qui réunit les voix autochtones. Et on aura quelqu'un qui viendra nous en parler. Comme le thème, c'est l'amitié. Qu'est-ce qu'il y a de plus amical que de collaborer au même livre? Et ça fait partie du Québec. Ça fait partie de notre culture. C'est un très beau livre. Et je pense que l'amitié sera au rendez-vous.
Nous, on a reçu un peu plus tôt cette année Michel Lemieux et Denis Morin qui ont coécrit hein, La Somme de nous. Je trouve que ça doit rentrer dans votre thème parce que c'est deux mains qui écrivent, c'est une amitié. Alors, parlez-nous un peu de ce choix. Est-ce que vous allez en faire lors des correspondances?
C'est un autre coup de cœur.
Ouais.
Si on parle d'amitié, je vous dirais que ce sont des gens, mon Dieu, Michel Lemieux a une grande...
Ben, ils sont un couple dans la vie, faut quand même, ça va plus loin que l'amitié, mais quand même.
Oui, absolument, mais je veux dire que c'est des gens qui sont d'une grande générosité. Ils vont apporter aussi des œuvres, on pourra afficher, parce qu'ils ont eu une grande carrière là, tous les deux,
oui.
Donc on affichera leurs œuvres dans ce qu'on appelle notre corridor, et ça c'est une chose, vous pouvez venir voir ça. Ensuite, il y aura la grande Bénédicte Descaries, grande artiste, grande comédienne, qui va lire des extraits de ce livre. Ce sera à 18h le samedi. Il y aura des projections, il fallait s'attendre à ça. Michel Lemieux, qui a travaillé avec le Cercle du Soleil, je crois, qui est un des pionniers de tout ce qui est, multimédia, on peut dire ça comme ça, je pense. Denis Morin, grand poète, qui va plus tard sortir aussi un autre livre. Là. Mais La Somme de nous, c'est un livre écrit à quatre mains. Ça, c'est assez impressionnant.
Et on va parler de votre cérémonie de clôture, comment ça va se passer, et vous allez aussi nous dévoiler le thème de la 25e édition.
Oui.
Là, je ne peux pas avoir un scoop, hein, c'est ça?
Mais non!
Ah.
Il va falloir que les gens soient sur place. Et en plus, je pense que 25 ans pour un festival littéraire, vous savez que ça tient quand même de l'exploit. C'est pas facile.
Assez difficile. Puis financer tout ça, c'est extraordinairement difficile, j'en sais quelque chose.
Oui. Et la présence des gens est essentielle. Hier, on avait la journée acheter un livre québécois. Je dirais, si vous voulez poursuivre cette belle lancée, achetez un billet pour les correspondances, venez rencontrer ces auteurs. Ils sont tellement contents de venir vous voir. C'est pas facile non plus l'écriture. On est seul souvent devant son écran. De venir rencontrer les lecteurs, mon Dieu, les auteurs nous disent comment c'est précieux. Mais je voulais dire que la clôture, on va rendre honneur à ceux qui sont les fondateurs et les gens qui ont aidé à ce que tout ça soit possible pendant les 25 dernières années. Donc, on aura les fondateurs qui seront là. Je parle de quelqu'un qui est très influent aussi dans notre communauté, M. Marinovitch, qui est au Spaceman, Philippe Denis Gérard. On a des gens qui sont très passionnés de la littérature et de la culture à Eastman. On est très chanceux qu'ils aient été là avant nous. On construit sur les épaules des géants qui nous ont précédés.
Un dernier mot. Pourquoi Eastman? Pourquoi ça se passe là?
Je dirais que Eastman, on se lit et on se lit. L-I-T-L-I-E.
Oui.
On lit beaucoup à Eastman. C'est un village littéraire. Et c'est un village amical, donc on se lie d'amitié. Venez pour un livre que vous connaissez, partez avec un autre coup de cœur. Venez seul ou avec une amie, vous allez repartir avec 100 autres amis. Donc je vous invite à vous procurer vos billets sur lescorrespondances.ca ou sur le site de La Marjolaine. Il reste quelques passeports. Alors pour à peine 120 $, vous avez accès à toutes les activités. Quand je dis il en reste quelques-uns, c'est moins d'une dizaine. Donc, profitez-en.
Mais Elisabeth Walling, directrice générale et artistique des correspondances d'Eastman, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. À la prochaine.
Merci. Et j'espère que vous pourrez avoir de nos invités à votre émission. On aimerait ça les entendre aussi.
Bien, proposez-les. On va voir ce qu'on peut faire. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
Laissés en plan, laissés sur le flanc, qui ont refusé de laisser leur enfant dans la poubelle. Elle assume jusqu'au bout, elle s'occupe de ses mômes sans se plaindre. Sa fille est aveugle, elle n'a Dieu que pour elle. Si elle pouvait, elle donnerait ses prunelles à sa fille pour qu'elle puisse admirer la couleur du ciel. Elle a jamais vu un coucher du soleil. La mère joue au loto pour enfin toucher de l'oseille. La greffe des yeux, ça coupe les yeux de la tête. Pour avoir recours à ça, il faut les baisser d'âme. Malgré ses deux boulots,
elle n'arrive pas à payer ça. Mais Teresa, c'est comme ça qu'on l'appelle. Un jour, on reçoit une nouvelle intéressante. Mais Teresa va toucher la cagnotte. Pendant tant d'années, elle a goûté au bâton. Maintenant, elle va enfin pouvoir goûter à la carotte. À la drogue, la prostitution. Elle est née dans un quartier difficile. Elle rêve du sommet, elle est au fond du fossé. Elle continue à rêver, même qu'elle n'a pas sommeil. Elle veut être musicienne, elle est grave passionnée. Mais pour l'instant, elle n'a pas d'oseille. Alors elle vend son corps dans les rues parisiennes. Un jour, un client laisse son empreinte. La jeune fille est tombée enceinte. Je déconseille de garder l'enfant. Elle me dit, au bio la ferme. Jusqu'à présent, ma vie était un enfer. C'est une bénédiction, faut que ces semences germent. Je mate la télé, 20 ans plus tard. Son fils est devenu une superstar. Hein.
Toutes ces épreuves nous ont tués.
On vient d'entendre La Force par Hop Io et Christine Duchel. Et on poursuit en musique avec Céline Dion, la pièce Bonjour, pardon, merci.
Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne. Qu'on soit d'ici ou d'ailleurs, nous ne sommes que des hommes, forgés par nos erreurs, que seul amour console. Bonjour, pardon et mille merci à l'heure, pour toutes les fois où elle m'a couverte d'or. Bonjour, pardon, merci, il manque le verre à ce poème. Un mot qui nous unit. Bonjour, pardon, merci, je t'aime. Combien de temps va-t-elle rester cette marque de rouge à lèvres? Il y a ces moments donnés que le temps nous enlève. On n'en aura jamais assez, on en manquera toujours. On n'a jamais trop donné, ni trop reçu d'amour. Bonjour, pardon, et oui, je t'aime encore. De tous les sentiments, ce dernier. Plus fort. Bonjour, pardon, merci. Il manque un verre à ce poème. Un mot qui nous unit. Bonjour, pardon, merci, je t'aime. Regarde, il nous sourit. L'univers entier nous appelle. Du vent.
Tu fardes, tu brilles de mille paillettes. Comme un soldat monte la garde face aux démons dans sa tête. Et si parfois toi aussi tu as peur de ne pas assez briller de l'intérieur.
Bonjour, pardon, merci. Il manque un verre à ce poème.
Bonjour, pardon, merci, je t'aime. Regarde,
parti.
Et oui, c'était donc Bonjour, pardon, merci avec Céline Dion, sa plus récente chanson. Et ceux qui auront assez d'argent et le privilège d'avoir trouvé des billets pourront la voir à Paris cet automne. Et peut-être découvrir les autres chansons qui feront partie de son prochain album. Petit rappel météo, donc Québec, Ontario, province atlantique, c'est généralement nuageux aujourd'hui, possibilité d'averses et d'orages en après-midi. Dans l'Est, c'est 22 degrés, 25 avec l'humidex. En Ontario, l'humidex va atteindre 31. Dans l'Ouest du pays, alternance de soleil et de nuages avec possibilité d'averses en après-midi. C'est au Manitoba avec un maximum de 24, humidex 27. Saskatchewan, pluie 19 degrés. La pluie aussi en Alberta, 16 degrés. Colombie-Britannique, c'est généralement ensoleillé, 23 à 25. On va rencontrer la drag queen Piche, drag queen française et gitane, qui va nous parler de ses origines, de la chanson, etc., etc. Une rencontre que j'ai faite lors du Festival Franco, tout de suite après la pause.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Tu seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs, ni des gestes qui veulent dire. Et je sais si ce sont tout de même les pires à venir te castrer pour quelques vocalistes. Tu seras viril, mon kid. Loin de toi, c'est fini. Finesse tactique de ces femmes d'origines qui féminisent, groguisent sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid, tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon. Et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique.
Virilité abusive. Virilité abusive.
Tu seras viril, mon kid. Je veux voir ton teint pâle se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril, mon kid. Tu hisseras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille. Tu seras viril, mon kid. Tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière en tous sens des fils à fer et dopés de chair de nerfs protéinés. Tu seras viril, mon kid. Tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle.
Virilité abusive. Virilité abusive. Virilité abusive. Virilité abusive.
Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent.
Qui est de par Eddie de Préto?
Radio-Canada.ca, 12 août, Innovation, Sciences et Développement économique Canada a été condamné à verser 28 000 $ en dommages et intérêts en plus de payer des arriérés de salaire à un fonctionnaire âgé de 29 ans atteint d'un trouble de stress post-traumatique. La Commission des relations de travail et de l'emploi dans la fonction publique fédérale a jugé que le ministère agit de manière imprudente en lui refusant le maintien du télétravail. L'employé était en congé sans solde depuis mai 2024, après le rejet de sa demande, alors que l'employeur lui proposait plutôt des mesures alternatives, comme le port d'un casque à suppression de bruit ou un poste isolé. Le président de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada, Sean O'Reilly, a affirmé que cette décision d'alarme pour l'administration fédérale. Le syndicat demande une révision de la politique d'obligation de présence au bureau, prônant une approche axée sur la présence justifiée et une plus grande flexibilité pour les employés ayant des besoins médicaux. La décision s'inscrit dans un contexte où les fonctionnaires fédéraux sont tenus de se présenter au bureau 4 jours par semaine.
Je veux revoir
la formation Grand Dérangement, viennent de nous chanter « Je reviens au berceau de l'Acadie ».
Ah, c'est une belle chanson qui me rappelle beaucoup de choses. J'ai vécu dans ce coin, comme j'ai dit, dans ce coin du monde, l'Acadie de la Nouvelle-Écosse. Grand Dérangement avait écrit cette chanson. C'est un peu dans le cadre des festivités entourant le 400e anniversaire de l'Acadie. C'était en 2004. Et à l'époque, je couvrais cet événement pour Radio-Canada. Grand Dérangement. C'est vraiment une belle chanson. Et je vous fais jouer ça parce que je rappelle que le 15 août, c'est la fête nationale de l'Acadie, ce pays virtuel dont plusieurs personnes tirent leurs origines. Un million de Québécois ont leurs origines en Acadie. Alors, bonne fête, l'Acadie. Bon tintamarre, bon grand, bon... Amusez-vous et du plaisir.
Désenchantée par Mylène Farmer.
Piche est devenue une figure incontournable de la scène queer, de la danse et de la musique, révélée au grand public par l'émission Drag Race France, propulsée sur la scène internationale lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris en 2024. Elle bouscule les codes du rap français tout en s'apprêtant à fouler la scène mythique de l'Olympia. Ah, c'est en novembre qui vient. Rappeureuse ou rappeuse, rappeur, performeur, première drag queen gitane de France, Piche est avec nous aujourd'hui. Piche, bonjour.
Bonjour.
J'avais beaucoup de choses à dire. D'abord, bienvenue à Montréal. On est content de te recevoir. Alors, tu affirmes avec force être chanteur qui fait du drag et non pas une drag qui fait du chant. En quoi cette nuance redéfinit-elle ta manière d'aborder le rap, mais encore très codé, et que tu tentes de rendre plus inclusif envers les communautés de la diversité sexuelle et de genre?
Complètement, c'est ce qu'on essaie de faire. En vrai, j'ai une petite nuance, mais
oui.
C'est plus pour la contrainte.
Oui. Oui.
Mais je voulais que les gens comprennent véritablement le projet musical en premier plan, que ce soit ça qui prime finalement, et que le drag ce soit plus un espèce d'outil, etc., vecteur pour la manière que j'ai de donner mes messages. Mais le fond du fond, c'est surtout que je suis un artiste musical.
Mais oui, c'est vrai. D'ailleurs, on va en parler parce que ton frère jumeau, Morgan, est co-auteur de plusieurs de tes chansons, en fait presque toutes tes chansons. Notamment le titre « Oh, ma piche ». Comment ça s'articule, cette création-là, entre à vous deux?
« Ma piche », c'est un son que j'ai fait il y a un petit moment.
Ouais.
Mais en général, ça dépend. Soit l'idée vient de lui, plutôt ça vient de moi, et l'autre personne ensuite vient et retravaille dessus. En fait, chaque chanson, j'en ai pas encore fait des sons non plus, a vraiment un process, j'ai l'impression, en particulier, et à lui, j'ai pas encore d'automatisme. Mais sur ma piche, je crois que le refrain, c'était moi, les parties un peu plus kickées sur les couplets, c'était mon frère. Et voilà, la seule chose qui compte, surtout pour nous, c'est qu'à la fin, les deux soient contents du résultat. C'est-à-dire que s'il y en a un de nous deux qui ne valide pas, ça
va. Donc, ouais, c'est un vrai travail d'équipe. Et les deux ont levé tôt. le public, oui, puis je vais peut-être le dire parce que les gens t'entendent tousser. Malheureusement, il y a des allergies ici à Montréal quand les pollens. Les pollens, ouais. C'est des choses qui arrivent. Le public a pu découvrir ton histoire dans le documentaire L'absent dans le cœur de Piche. C'était diffusé par France Télévisions. On parle de la rupture avec ton père qui t'a chassé. Comment l'art du drag a-t-il aidé ou t'a-t-il aidé à reconstruire tout ça, te reconstruire toi après ça?
En vrai, dans un premier lieu, c'était pas le drag, parce que c'était très jeune quand c'est passé ce qui s'est passé dans ma vie. Et le drag est arrivé beaucoup plus tard, en vrai, il est arrivé, je pense, à 23 ans, ou 22 ans, quelque chose comme ça. C'est plus la danse, en vrai, qui a permis de traverser tout ça, parce qu'à la base, c'est vraiment ce que je fais de métier avant même le drag. Le drag, lui, en revanche, il m'a permis de me réconcilier plutôt avec d'où je viens, en vrai, mes origines, etc. Ce côté enfant du sud de la France et gypsy, c'était un petit peu des racines que j'avais laissées de côté. Et le drag m'a permis vraiment de me réapproprier toute cette partie-là de ma culture et de l'injecter ensuite dans mes musiques, dans mes visuels, etc.
Parlons-en de la danse, parce que lorsqu'on t'a vu dans Drag Race France, c'était vraiment des numéros de danse incroyables et l'originalité des costumes. Tu t'inspires où quand tu fais ça? De quoi tu t'inspires?
En vrai, je suis très branché pop culture.
Ouais.
De manière générale, j'aime beaucoup les films, les séries, etc. Enfin, j'en regarde beaucoup. Et pour moi, le drag, c'est vraiment quelque chose, en tout cas dans les looks, qui permet, un petit peu comme les super pouvoirs, de pouvoir vêtir des choses qui n'existent pas dans la vraie vie et dans le quotidien. C'est vraiment la possibilité de pouvoir rêver et comme un peu avoir des effets spéciaux, mais dans la vraie vie, en live. Et c'est pour ça du coup que j'aime toujours prendre des concepts un peu fous, des choses qu'on s'imagine pas qu'on pourrait porter. J'ai pas, même si j'aime aussi les très jolies petites robes, juste toutes simples, mais je crois que quand je vois tout à l'heure, en tout cas notamment sur l'émission, j'ai vraiment envie de voir des choses qui n'existent pas dans la vraie vie. Donc des looks très calmes, très poussés, sur des rêves qui me parlent.
Et tu nous as décroché des sourires et tu nous as fait aussi, tu nous as décroché que plusieurs émotions aussi dans cette émission-là, je dois dire, moi pour l'avoir vu, là. J'aimerais revenir à ce documentaire, ainsi que dans le titre de ton titre Respire. Tu abordes de front le thème du suicide, ce qui suscite des réactions extrêmement intenses de la part de tes fans. Comment gères-tu cette responsabilité d'aborder une telle détresse à travers ta musique?
En tout cas, mon public, j'essaie de le prendre le plus possible avec bienveillance. Alors, c'est vrai que des fois, c'est difficile parce que c'est des gens dans des parcours qui sont aussi très très intenses et qui te le délivrent comme ça. Mais je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour elle, c'est une bonne chose pour moi aussi. Je trouve que des fois, tu sais, dans tout ce qui se passe avec la musique, le fait que tout aille très vite, bah, j'ai aussi des histoires qui, moi, me remettent les pieds sur terre.
Oui. Tu es la première drag queen gitane et tu revendiques aussi, si j'ai bien compris, des origines algériennes. Dans l'espace public, porter plusieurs origines, toutes ces cultures-là et ces identités, en plus d'identité queer, ça peut être un acte qu'on dirait politiquement fort. As-tu l'impression, au cours de ta trajectoire, de devoir libérer quelque chose ou de négocier des loyautés complexes, que ça complique pas un peu toutes ces identités, ça complique pas un petit peu comment tu te présentes comme artiste?
Alors, oui, c'est pour ça que je parle toujours de wording, c'est important en fait, justement tout à l'heure, on disait un chanteur qui fait drag, et pas voilà.
Ouais.
C'est un peu ce truc-là où il faut être smart dans la manière qu'on a de produire auprès des gens pour que du coup il y ait certains messages qui passent pas plus que d'autres, mais tu vois par exemple quand on parle de mes origines.
Oui. Oui.
Dans le paysage audiovisuel français, parce qu'on n'en a pas, là où moi par exemple je connaissais des personnes maghrébines, queer, publiques et donc déjà engagées, et je me disais, bah, t'as déjà aussi des gens qui représentent ça et qui le font très très bien. Par contre, chez les gitans, il n'y en a pas du tout. Donc du coup, j'ai parlé un peu plus, alors qu'en réalité, je suis tout autant algérien que gitan, mais cette culture-là, j'ai un peu plus mise en avant parce que j'ai l'impression qu'elle a besoin encore plus de représentation en ce moment. Donc je pense que c'est voilà, une histoire de wording, savoir qu'est-ce que c'est un peu l'expression de la charrue avant les deux, genre on veut tout travailler, tout faire, faire avancer toutes les causes, mais il faut le faire avec une, comment on appelle ça, il y a un temps pour tout quoi.
Thomas Joly, lors de la cérémonie des Jeux Olympiques, t'as mis dans une espèce de une scène où vous étiez tous là, plusieurs drag queens de France, un numéro fort joli sous la pluie. Ça devait pas être facile. Et ça a déclenché des réactions assez dures du côté de l'extrême droite un peu partout dans le monde. Comment t'as réagi à ça?
En vrai, c'est con, mais ça va.
Ouais. Oui.
Sur le négatif, vraiment, j'ai pas le time. Je me suis rendu compte que c'était très intense parce que je reçois des messages d'insultes dans toutes les langues du monde. Ça, c'est impressionnant. Donc, tu te rends compte de l'impact de la chose. Mais je vais pas te mentir, en termes de santé mentale, en tout cas, et à quel point moi ça m'a touché, c'était ridicule en comparaison de tout le positif que j'ai eu à côté. Moi, j'en tire quelque chose de surtout très, très, très positif.
Comment t'expliques cette réaction-là, toi? Comment tu la conçois?
Ouais. Mais c'est pas la nature de l'émotion, la haine, ça fait longtemps que je la comprends chez les gens.
Mais pour les plus jeunes là, qui reçoivent ça, puis qui sont parmi tes fans, même si t'aimes pas le terme, qu'est-ce que tu leur dis?
De pas s'arrêter dessus au possible. En vrai, je pense que c'est aussi pour ça, plus fait de se laisser atteindre par les critiques des autres, c'est évidemment un travail perso. Tout le monde. Peut-être qu'il y a des périodes de la vie où on n'aurait pas été aussi solide que maintenant. Mais c'est pour montrer aux gens voilà, que si ça peut nous glisser dessus, ça peut vous glisser aussi dessus. C'est pas obligé d'être quelque chose qui nous mette au fond du trou et très très mal. Donc il faut se concentrer sur le positif, sur l'entourage, sur ses projets, sur les sentiments. Des sentiments de bienveillance et d'amour, etc. C'est un peu dispense ce que je suis en train de dire. Ici, mais c'est vrai, en vrai, il faut se concentrer sur le bien. Genre, c'est déjà tellement compliqué.
Alors, on vient d'entendre Piche, la drag queen française qui a participé à Drag Race France. Il était chez nous pendant le Festival Franco. Piche, qui est une drag queen française gitane et qui a parlé un peu de ses origines algériennes. J'ai un petit peu de temps pour vous parler d'une autre nouvelle intéressante ici. Radio-Canada.ca, 12 août, la mairesse de Hamilton, Andrea Howarth, a transmis des lettres aux entreprises locales afin qu'elles mettent en garde contre la tenue d'une conférence organisée par la Dominion Society of Canada, prévue le 29 août sous le nom de DomCon 2026. Ce groupe milite notamment pour la remigration, une expression ou une notion associée par les experts à l'expulsion des populations non européennes du Canada. La mairesse a confirmé que la municipalité ne louera aucun de ces espaces à cette organisation. Plusieurs organisations communautaires, dont le Hamilton Anti-Racism Resource Center, le Hamilton Center for Civic Inclusion, ont également publié une lettre ouverte pour exhorter les institutions et commerces à refuser de leur louer leurs locaux à ce groupe. Pour sa part, la Dominion Society rejette l'étiquette de groupe haineux, évidemment, se définissant plutôt comme un organisme de défense du patrimoine canadien et garde le lieu de l'événement secret. Ben oui. Alors, la police de Hamilton prépare un plan d'intervention afin de gérer tout risque ou toute perturbation en marge de ce rassemblement. Mais c'est tout pour nous pour aujourd'hui. C'est tout pour cette semaine. Je m'appelle Denis Martin Chabot. Merci à Maurice Bolduc. À lundi.